Savoir parler efficacement devrait être d'utilité publique. C'est vrai que grâce à cela, on peut se faire entendre dans la sphère familiale, dans le couple, dans les démarches de la vie courante, dans son travail, mais aussi dans des discours politiques. Bonjour, je m'appelle Magali Barclay de Chrysalide CFC. J'aide les structures à booster leur évolution au travers de conseils en stratégie de communication, de formation dans le domaine et du pilotage du plan d'action. Bienvenue dans le podcast « Parler et être écouté ». Je vous propose un voyage hebdomadaire pendant lequel nous recevrons des spécialistes du domaine. Nous échangerons sur des sujets pour éveiller les consciences sur le lien notamment entre une prise de parole efficace et le développement personnel. Vous êtes prêts ? Allons-y, c'est parti ! Je vous propose aujourd'hui de parler d'un autre outil de gestion du stress et gestion des émotions qui est la sophrologie. Créée dans les années 1960 par le neuropsychiatre Alfonso Caicedo, c'est une discipline qui vise à restaurer l'harmonie entre le corps et l'esprit. J'ai moi-même fait appel à cette discipline à plusieurs reprises. J'ai eu la chance de pouvoir en disposer quand je travaillais en région parisienne il y a quelques années. Et ça m'a aidé dans le domaine sportif. Donc c'est l'outil a priori chouchou des sportifs, notamment tout récemment, Rafael Nadal vient de remporter une victoire, géniale, gigantesque, on peut dire presque inattendue pour un homme de cet âge. Et c'est bien sûr un sportif qui utilise régulièrement la sophrologie. J'ai aussi utilisé la sophrologie dans un domaine personnel pour la gestion notamment du stress. Donc pour juste faire un petit tour de ce sur quoi ça peut agir, alors a priori en finir avec le tabac, oublier ses acouphènes, se libérer du surpoids, dompter des douleurs, surmonter les bouffées de chaleur, maîtriser la peur de la mammographie ou d'autres choses qu'on va faire telles que prendre l'avion, des choses comme ça. Et aussi, dans l'exercice qui nous intéresse dans le cas présent, c'est-à-dire la prise de parole en public, gérer son stress ou ses émotions avant une prise de parole en public.
Parler et être écouté, le podcast qui dévoile les clés d'une parole écoutée et pas qu'entendue.
Alors bonjour à tous et merci de suivre le podcast Parler et être écouté. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer Willy Barclay. Donc vous l'aurez deviné par le nom de famille, donc c'est mon grand frère. Il a plusieurs casquettes, donc il va se présenter lui-même tout à l'heure. Et le but cette fois-ci, c'est de parler de tout ce qui est gestion du stress, un peu de développement personnel, mais beaucoup gestion du stress, donc est une sphère importante dans la prise de parole en public, puisque c'est ce qui nous permet d'être vraiment à l'aise, d'avoir nos moyens. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité interviewer donc Willy, puisqu'il est spécialisé dans ce domaine. Donc je te laisse la parole pour que tu te présentes auprès de nos auditeurs.
Bonjour à tous. Comme Magali l'a dit, je m'appelle Willy Barclay. Je suis coach et préparateur mental, sophrologue et entraîneur de tennis. Et la gestion du stress fait partie intégrante de mes interventions, que ce soit dans le sport ou dans d'autres domaines.
Donc tout d'abord, alors Willy, donc toi tu t'es formé il y a plusieurs années, je me souviens, j'ai même été un petit peu ton cobaye à l'époque, sur tout ce qui est hypnose ericksonienne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? À quoi ça sert, et notamment dans la prise de parole en public, qu'est-ce que ça peut apporter et comment est-ce que tu l'utilises ?
Il y a diverses sortes d'hypnose, il y a l'hypnose classique, l'hypnose ericksonienne, et il y a même une troisième hypnose qui est apparue ces derniers temps, c'est l'hypnose humaniste. Moi, je suis plutôt formé sur l'hypnose ericksonienne qui travaille sur l'inconscient. D'accord ? C'est en fin de compte arriver à trouver des solutions son inconscient.
Donc, les solutions qu'on va trouver sur notre inconscient dans la prise de parole en public, alors est-ce que ça peut se matérialiser par, je suis complètement traumatisée, à chaque fois je dois prendre la parole en public et en fait je ne sais pas de quoi ça vient. Donc, du coup, toi, si c'est le cas, par exemple, moi je me présente, je sais qu'à chaque fois que je dois prendre la parole en réunion, j'ai les jambes qui flagellent, j'arrive plus à parler, j'oublie tout. Comment est-ce que tu fonctionnerais, toi, du coup, sur l'inconscient ?
Alors, sur l'inconscient, on pourrait partir déjà sur un petit travail de respiration et faire des inductions, et trouver l'inconscient. Dans l'inconscient, c'est semer en quelque sorte des petites graines pour arriver à ce que, sur le moment présent, on puisse être à l'aise, on puisse être mobile, on puisse être relâché et trouver du plaisir dans sa prise de parole en public. Je pense que c'est ce que on peut résumer de manière un petit peu plus rapide.
D'accord. Alors, tu as utilisé le mot induction. Pour les personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est qu'une induction?
L'induction, c'est ce qui permet, en fin de compte, de rentrer dans un état hypnotique pour arriver un petit peu au niveau… en sophrologie, parce que je fais de la sophrologie aussi, on parle de sophroliminal, donc c'est à peu près la même chose au niveau de la sophro, au niveau de l'hypnose. Donc, c'est arriver à descendre par diverses mots, diverses respirations, peut-être même de la visualisation aussi, pourquoi pas aussi des métaphores qui te permettent d'arriver un petit peu à ce stade-là, qui permet de commencer, entre guillemets, le travail. Quoi.
D'accord. Ah, bah, c'est intéressant parce que du coup, il y a plusieurs façons d'y arriver. Hein. Tu disais la visualisation, des métaphores aussi, ça je ne savais pas.
On peut, à travers les métaphores, on peut effectivement… on parle d'état hypnotique, mais c'est un état modifié de conscience. Hein. Et l'état modifié de conscience, c'est un état naturel qu'on expérimente toutes les 90 minutes. Donc, c'est absolument pas le phénomène de foire que l'on voit à la télé. Ça, c'est pas exactement ça.
D'accord. OK. Bon, bah, très bien. Alors, c'est vrai que ce que tu dis, en fait, c'est qu'on l'expérimente déjà naturellement. Tu vois, l'exemple que je prends souvent, j'en parlais avec un ami encore il y a 2 jours, c'est on prend sa voiture… On se retrouve à un endroit qui est notre travail, mais on ne se souvient plus par quel chemin on est passé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Mais après, toi, en tant que professionnel du domaine, du coup, toi, tu vas amener la personne plus facilement peut-être à des points… voilà, parce que la voiture, ben, on le fait naturellement. Mais là, la prise de parole en public, ben, on ne sait pas comment faire. C'est ça, hein. C'est vraiment des nouvelles choses, pour bien résumer. Super.
Après, ce qui permet aussi, quand on travaille sur l'inconscient, c'est que la personne va trouver ses propres solutions.
D'accord, ok.
C'est un petit peu la différence entre l'hypnose classique et l'hypnose ericksonienne. C'est que l'hypnose ericksonienne, c'est quelque chose de plus doux qui va amener la personne à trouver directement ses propres solutions pour arriver à être à l'aise dans sa prise de parole en public. Quoi.
D'accord. Voilà. Et c'est vrai que le fait de trouver ses propres solutions… Alors moi, ça me parle vraiment, parce que ça va vraiment avec ce que je mettais dans ce podcast, c'est qu'on est tous différents. Hein. Il y a aussi des personnes sur ce podcast qui vont intervenir sur la personnalité et que selon la personnalité que l'on a, on ne va pas avoir besoin des mêmes outils. Donc, les trouver par soi-même, c'est la meilleure solution, semblerait-il. Tu confirmes?
En plus, la personne s'approprie directement ses propres solutions. Ouais. Donc après, c'est quelque chose qui est pérenne et qui s'installe dans le temps, même si… Elle ne va pas parler en public tous les jours. C'est quelque chose qu'après, elle peut retrouver par la suite sur une intervention future.
Donc, c'est un outil qui va servir pour la vie en général, effectivement. Là, on est vraiment axé sur parler, être écouté, mais ce n'est pas que ça. Ça va au-delà. C'est ça qui est magique.
Bon, bah, génial. Exactement.
Donc, on a parlé de ce premier outil que tu utilises, hein, puisque tu es formé dessus, donc l'hypnose et principalement l'hypnose ericksonienne. Mais je sais du coup, comme je te connais un petit peu, que tu es du coup sophrologue certifié depuis cette année. Parce qu'on est en 2022, depuis 2021. Voilà.
Depuis 2020 même.
Le temps passe tellement vite qu'effectivement, ça fait maintenant un peu plus longtemps. Est-ce que tu pourrais du coup nous parler de cette pratique? Est-ce que ça peut apporter, alors là, principalement sur la cartouche qu'on a aujourd'hui, qui est la gestion du stress?
Bien sûr. La particularité et ma définition un petit peu de la sophrologie, c'est d'arriver un peu à trouver un équilibre entre l'esprit et le corps pour après arriver à trouver et à développer tout son potentiel. Quoi. Parce qu'on parle souvent de préparation mentale, j'aime pas trop ce terme-là, parce que il n'y a pas que le mental, il n'y a pas que l'esprit, il y a aussi le corps. Et trouver un petit peu un équilibre entre les deux, c'est quelque chose qui permet… mieux gérer son stress, on le voit sur les personnes qui sont stressées, c'est des personnes qui ne respirent pas, c'est des personnes, le rythme cardiaque s'accélère, on peut avoir les mains moites, on peut avoir les trapèzes un petit peu au-dessus des épaules qui commencent un petit peu à se tendre, et de revenir un petit peu dans le corps, ça permet déjà de se relâcher physiquement, et puis de se relâcher aussi mentalement.
D'accord.
Entre autres.
Donc, c'est un équilibre, en fait, entre le corps et l'esprit, quoi.
Tout à fait. Trouver cet équilibre. Tout à fait. C'est ma définition personnelle, un petit peu, de la sophrologie et ma vision, tout à fait.
D'accord. Et donc, toi, comment est-ce que tu vas intervenir, toujours en reprenant le même exemple tout à l'heure, auprès de clients, de personnes qui vont venir te voir, qui vont dire qu'ils ont un souci de gestion du stress, qui perdent leurs moyens? Alors, on a vu pour l'hypnose, mais pour la sophrologie, quels sont tes outils? Comment est-ce que tu vas fonctionner là-dessus?
On appelle ça un petit peu l'anamnèse, c'est-à-dire qu'on va recueillir des informations sur ses sensations propres dans la prise de parole en public. Par exemple, la personne peut me dire je me sens paniqué, j'ai du mal à respirer, je deviens toute rouge, j'ai des sueurs, etc., etc. Donc, je vais lui demander exactement où se situe ton stress dans ton corps, par exemple. Alors, elle peut me dire, je ne sais pas, au niveau des épaules. Très bien. Alors, et après, il y a tout un accompagnement pour arriver à relâcher, pour arriver à redescendre dans son corps et arriver à relâcher ses épaules à travers des exercices de respiration, des exercices de visualisation.
D'accord. Alors, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte, parce que tu sais, j'interviens moi auprès d'étudiants, donc en prise de parole en public, enfin, vous savez, parce que toi, tu le sais très bien, et je me rends compte qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas respirer.
Tout à fait.
De quoi ça vient, ça? Parce qu'au final, les bébés, ils sont tous, ils savent tous respirer. On les voit, leur ventre qui se lève, qui se descend. De quoi ça vient? À quel moment est-ce qu'on a, d'après toi, on arrête de savoir respirer? Enfin,
je pense que dès qu'on n'est plus bébé, ouais, parce qu'on prend des mauvaises habitudes. Mm-hmm. On prend des mauvaises habitudes avec le stress ambiant, avec des émotions peut-être un peu fortes et exacerbées qui nous font respirer un petit peu à l'envers. Effectivement, quand on demande une inspiration, on voit les personnes avec la poitrine qui se soulève, avec les épaules qui se soulèvent. Ce n'est pas exactement la respiration dans le bon ordre qui permet de trouver des vertus de calme, de trouver des vertus apaisantes et de relâchement.
Donc, on doit réapprendre à respirer.
Oui, tout à fait. Tout à fait. La première des choses, quand j'interviens sur quelqu'un et que je remarque que cette personne respire à l'envers, entre guillemets, c'est de lui dire d'abord de vider ses poumons. De vider ses poumons. Une fois que ses poumons sont vides, et ben là, elle va respirer dans le bon ordre, c'est-à-dire qu'elle va commencer par, si on parle de respiration ventrale, elle va commencer par un inspire, le ventre se gonfle un petit peu comme un ballon pour travailler un petit peu sur le diaphragme, et à l'expire, le ventre peut retrouver un petit peu sa position initiale, même être un petit peu plus rétracté pour retrouver du calme, tout simplement aussi. Quoi.
Tout à fait.
Pour la gestion du stress, ça peut être utile, effectivement.
Très bien, très bien. Alors, je sais que toi, tu as une troisième couleur qui est intéressante. Tu as l'hypnose ericksonienne, tu as la sophrologie et tu viens du monde du sport, notamment du tennis, donc depuis des années, tennis en compétition et enseignant de tennis. Est-ce que cette couleur particulière, tu la trouves intéressante aussi? Est-ce que ça te sert pour transmettre des choses à tes patients?
La gestion du stress est très, très présente aussi dans le sport, hein, de toute façon. Et un sportif qui va tirer un pénalty en finale de la Coupe du Monde, il ne faut pas croire que c'est que mécanique. Il y a aussi un peu de stress. Hein. Un sportif qui va rentrer en finale d'un grand tournoi, ou un tennisman qui va rentrer, puisque c'est mon métier, qui va rentrer sur un cours, il va avoir un petit peu de stress. Le stress, généralement, les sportifs arrivent à plutôt bien le gérer, même s'il peut y avoir des exceptions, avec le corps. Ils utilisent beaucoup la respiration. Et le fait d'avoir une activité physique aussi permet d'arriver à bien gérer son stress et à se détendre.
Donc c'est toujours ce fameux rapport corps-esprit dont je parle souvent et que j'espère vraiment que ce podcast aidera aussi à bien mettre dans l'esprit des gens que ce rapport il est plus qu'étroit. Mais effectivement, tu le fais bien ressortir par ces sportifs qui, eux, de toute façon, ne peuvent pas faire autrement, je pense. Aujourd'hui,
oui, complètement.
Les plus grands sportifs de haut niveau.
Après, il y a un élément aussi qui est important parce qu'on parle souvent de stress comme un élément négatif. Mmh. Effectivement, quand le stress n'est pas bien géré, qu'il devient trop important, il peut être un peu inhibiteur, la personne peut être un peu paralysée, mais à la base, on a hérité du stress de nos ancêtres qui avaient des réactions face à des prédateurs potentiels. Et c'est, en fin de compte, le stress est une adaptation hormonale qui permet au corps de se tendre pour soit fuir, soit combattre, ou soit être complètement inhibé. à la base, c'est positif et que c'est quelque chose à travailler, à améliorer avec des outils comme la sophrologie, comme l'hypnose, comme le yoga, comme plein d'outils qui peuvent permettre d'obtenir de bons résultats.
Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs qui nous écoutent ? Alors, c'est vrai qu'on est dans une période, alors certains disent pas facile, enfin, c'est une période voilà, où on en ressort aussi des choses positives, hein, il n'y a pas que du négatif, mais en tout cas où il faut s'adapter, hein, où certaines personnalités peuvent ressentir un stress important au-delà de la prise de parole en public. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, dire ? Je ne sais pas si c'est le mot conseil, mais qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là pour justement mieux allier corps et esprit et mieux naviguer dans cette période.
Le stress est dans l'équilibre corps-esprit. On est souvent beaucoup dans le mental, avec ce fameux bavardage mental qui est, et cette petite voix interne aussi qui est assez négative aussi, c'est bien évidemment de rester positif, de trouver des petits plaisirs chaque jour, prendre un bain, aller courir, écouter de la musique, de trouver des petits plaisirs quotidiens. Après, par rapport à cette gestion du stress et à la période actuelle aussi, c'est d'utiliser beaucoup aussi la visualisation. La visualisation, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qui a été visualisé avec précision et le geste en lui-même. C'est les mêmes connexions nerveuses, c'est exactement les mêmes connexions qui travaillent. Donc, le fait de visualiser quelque chose que l'on va faire, une prise de parole en public ou autre chose, va aider la personne à mieux se sentir et à trouver ses propres ressources.
Cette visualisation, on en a parlé lors d'un précédent, une précédente personne que j'ai interviewée. C'est vrai que les neurosciences ont fait d'énormes progrès là-dessus et nous confirment qu'effectivement, c'est le cas. Et autant l'utiliser. Et puis, c'est gratuit hein, presque et ça peut rapporter gros.
J'ai parlé de la visualisation, mais la méditation aussi, méditer peut être quelque chose de bien, qui permet encore une fois de se déconnecter de son mental pour revenir un petit peu plus dans son corps et trouver un équilibre entre les deux.
Et pour rebondir sur ce que tu dis, moi pour l'avoir vécu à certaines périodes, il y a des moments où on ne se rend même pas compte, on a carrément coupé notre mental de notre corps, enfin moi je l'ai vécu, hein, où j'étais plus du tout dans mon corps et que dans mon mental. Et à un moment, bah, on tombe malade ou alors on a mal. Et là, tout d'un coup, on se réveille, on se dit « Ah, bah oui !» Et puis, on refait le chemin en arrière. Donc, c'est intéressant ce que tu nous dis avec tous ces rituels de méditation, de choses qui permettent de désamorcer avant d'arriver trop tard. Quoi.
Bien sûr.
Merci beaucoup à toi.
Merci à toi de m'avoir invité.
Avec grand plaisir. Et puis, bah, du coup, je mettrai de toute façon en lien les informations pour te retrouver. Et puis, je dis au revoir à nos auditeurs et à très vite.
Très bien. Merci à toi. Au revoir.
Parler et être écouté. Le podcast qui dévoile les clés d'une parole écoutée et pas qu'entendue.